ayez une seconde à tenter jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur?
Have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of it.
Il n'y a pas d'homme providentiel que je ne vous mènerai pas.
Nos politiques, une émission qui vous est présentée par Evelyne Adam.
Nos politiques, une émission pour vous saluer. Je suis très heureuse d'être là. Une émission sur la radio historique, RCI, pour mettre en lumière les portraits de femmes et d'hommes plus connus sous l'angle de leur fonction politique. Ça va changer, ça va nous faire une petite bulle de respiration décalée, photo intime, en cette année d'élection, cette année de campagne électorale. Nos politiques, c'est donc tout sauf de la politique, pour nos politiques, nos NOS. Alors notre premier invité, et j'y tenais, je suis très heureuse vraiment de l'accueillir, c'est Pierre Savelli, maire de Bastia. Bonjour Pierre.
Bonjour Evelyne.
Merci d'être là, merci d'avoir trouvé le temps, merci parce que je sais que il en faut du temps quand on est maire. C'est assez sportif aujourd'hui d'être maire. Hein. Alors Pierre, vous êtes premier magistrat de la ville de Bastia. Vous êtes maire depuis le 7 juin 2016 et devenu depuis 6 ans un acteur incontournable de la vie des Bastiais. Vous l'avez compris, dans nos politiques, on va parler de tout sauf de politique. Et si par réflexe vous cédiez à la tentation, il y a là des questions qui vous permettront d'en sortir rapidement. Ce sont des gages. Vous êtes, je le sais, un bon auditeur de la radio. Je n'ai pas oublié. La radio, c'est un média que vous utilisez quotidiennement?
Oui, c'est peut-être le média que je privilégie le plus par rapport à d'autres. Parce que c'est un moyen en écoutant la radio, on peut faire autre chose.
Ah oui, c'est vrai.
Écouter la radio, lire le journal, par exemple, le matin, au réveil.
Oui. Ça, c'est important. Dès le réveil, vous écoutez la radio.
Après, dans la journée, c'est beaucoup plus compliqué. Et selon les heures, j'écoute telle ou telle radio.
En voiture?
Voilà. En voiture aussi, mais en voiture, j'écoute plutôt des playlists.
Oui.
Parce qu'encore, la radio, on a du mal à la capter tout le long. Et il n'y a rien de plus désagréable que de commencer une émission, de la trouver intéressante et d'être obligé d'arrêter.
Oui. L'écouter. Alors, vous parlez playlist, on parlera musique. Vous êtes venu avec la vôtre de playlist. 5 titres qui vous tiennent à cœur. Vous me direz pourquoi?
Oui, 5 titres parmi tant d'autres qui vous tiennent à cœur. Après,
il
fallait faire un choix. C'est toujours compliqué quand on me dit... un titre, c'est plus facile de dire un titre que 5 titres.
Ah oui, ça, je m'en doute.
Voilà, mais... Enfin, on verra ce que les titres qui ont été choisis.
Merci, en tous les cas.
Voilà.
Merci. Alors... On est donc sur Radio Corsica International. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quel souvenir sur cette radio-là?
Bonjour, salut à toutes, Aimé Pietre et puis bon, RCI, c'est aussi des événements importants quand le relais radio avait été plastiqué à l'époque. Donc c'était un espace de liberté incroyable pour nous, dans les années 70. Et c'était tellement incroyable que c'est pour ça que il y a eu des tentatives d'attentats contre le relais de l'île d'Elbe, parce que justement, certains décideurs avaient compris que c'était un petit peu notre... Vous savez, en Grande-Bretagne, il y avait le bateau qui tournait autour de la Grande-Bretagne et qui émettait des musiques à l'époque, c'était interdit.
Oui, Radio Caroline.
On n'avait pas de bateau, mais on avait l'île d'Elbe qui émettait les émissions de RCI, quoi.
Ouais, voilà.
Donc c'était très important à l'époque, parce qu'on n'imagine pas qu'à l'époque, il y avait la radio d'État, il y avait une radio qui émettait depuis la Principauté de Monaco, et il n'y avait rien d'autre. Voilà.
Alors on va, si vous le permettez, juste faire un petit clin d'œil, puisqu'ils étaient tous là bien avant la libération des ondes en 1981, date à laquelle je débutais en radio sur le continent. Je voudrais faire un petit clin d'œil à toute cette équipe fondatrice d'Aimé Pietri, José Stromboni, Jean-Marc Raffaelli, Jean-Paul Capouri, Michel De Gentili, Pierre-Louis Alessandri, André Casabianca, Virginie, Evelyne Pietri, Auguste Cartard, ici présent, et qui donc, avec Philippe Jam, redonne un souffle, tel le phénix, cette radio renaît. C'était des pionniers, et de ces pionniers, eh bien, avec Rose Paolacci, je ne voudrais pas l'oublier, ils sont aujourd'hui 15 à faire renaître cette radio. Que pensez-vous du projet ?
Ah, c'est un projet enfin, que je trouve très intéressant. Alors, c'est pas renaître, c'est, oui, c'est redonner vie à Radio Corsia International, mais oui. C'est également aussi offrir un choix supplémentaire aux Corses d'écouter la radio, de prendre des informations et d'écouter des émissions. Donc, tout ça, c'est jamais négligeable. Quand on écoute beaucoup la radio, on est toujours intéressé par le fait qu'il y ait une nouvelle offre.
Alors, je voudrais avoir une pensée, si vous me le permettez, Pierre, pour mon ami, notre ami, Joël Aurabonne, qui nous a quittés trop tôt et qui devait être des nôtres dans cette aventure. Voilà, on a une grande pensée pour Jo. C'était une belle personne de radio. C'était une femme qui aimait les gens, qui aimait les ondes, et les ondes lui rendaient bien. Hein. On va essayer de découvrir l'homme qui se cache derrière le costume politique, Pierre. Je dis essayer car vous êtes d'une nature discrète, c'est vrai.
Certains disent que je suis de nature discrète. Je ne sais, j'ai du mal à évaluer si je suis ou pas de nature discrète. Alors après, c'est vrai que j'ai bien beaucoup apprécié d'avoir un métier avant d'être un politique et qui ne m'exposait pas beaucoup et qui me permettait d'avoir une activité qui me plaisait sans être sur les feux de la rampe. Mais je ne sais pas si... Enfin, peut-être que je suis discret, mais je ne suis pas certain.
Allez, on va voir, on va vérifier en une heure. Bastia est votre ville, mais depuis la naissance, vous êtes né à Bastia.
Né à Bastia le mois de juin 1959, ça fait donc quelques années. Grandi à Bastia, toute ma scolarité à Bastia, donc, et avec une vraie imprégnation de ces lieux, de ces quartiers. J'ai des souvenirs un petit peu partout à Bastia, et ça, pas qu'à Bastia, puisque j'avais aussi un village, mais Bastia beaucoup. Quoi. Et donc, c'est une fois que j'ai fini mes études, l'obsession c'était de rentrer en Corse, et ensuite de travailler à Bastia, parce que c'est là que j'avais décidé de travailler. Oui.
De quoi rêvait le petit garçon à l'école de Toga ? Est-ce qu'il rêvait de devenir un jour premier magistrat de la ville ?
Alors ça, jamais. Rêvé de ça. Mais alors, de quoi il rêvait ? J'ai peut-être toujours eu la volonté de m'occuper de gens qui souffraient. Alors, je l'ai fait par l'intermédiaire de
votre métier.
De mon métier. Et après, même dans mon engagement, et on ne parle pas de politique, mais... On peut le dire. Oui, oui. Dans l'engagement politique, je crois que j'ai une fibre qui a plutôt tendance à m'orienter, à faire que notre action s'adresse beaucoup aux gens qui ont des difficultés. Et à Bastia, malheureusement, ils sont trop nombreux.
Ouais. Pierre, c'était un enfant bagarreur, calme
Pas bagarreur, mais pas calme.
Ah, oui.
Voilà, donc non, avec...
Avec un bon caractère,
certains disent un petit peu têtu, donc quand il a pris une décision, la décision a été prise. Et mm-hmm. Voilà, ça a toujours été un de mes traits de caractère. Peut-être pas toujours facile à vivre aussi, mais voilà. Donc, non, pas bagarreur, j'étais pas un... J'appréciais pas du tout de me battre, mais en tout cas, déterminé. Mm. Voilà.
Vos parents rêvaient pour vous ? Est-ce qu'ils avaient des projets pour leur fils ?
Alors,
pour leurs quatre fils, hein, vous étiez quatre.
Quatre garçons, des projets, oui, c'était des projets de leur offrir tous les moyens pour qu'ils puissent... l'ascenseur social, on était d'une famille pas aisée, mais en tout cas, un père enseignant, une mère au foyer, mais tout fait pour que les quatre enfants aient déjà des chances égales de réussir et de tout faire pour qu'ils puissent réussir, voilà. Après, ils ont réussi à faire une chose, c'est que leurs quatre garçons, ma mère était contente, se sont tous installés à Bastia, habitaient tous Bastia, et voilà, dans un petit périmètre. Donc ça, on peut dire que c'est un instinct grégaire. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'était la grande joie de mes parents, et tous les enfants savaient, ils travaillent à Bastia ou dans les environs.
Le nid, le clan.
Voilà.
On va écouter un premier titre de votre playlist. Un premier titre qui va nous permettre de rendre hommage à Pedro, qui nous a quittés, Pedro Guelfucci. Ce titre-là, eh bien, on l'écoute et vous m'en parlez après ?
Oui.
On fait comme ça avec Antoine. Poète à la voix unique, militant de la première heure, la voix du Riakouis, ou la réappropriation de sa langue, la culture corse lui tenait à cœur. Apiculteur aussi, agriculteur, Pedro Guelfucci vient de nous quitter. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de Pedro?
Alors, Pedro, déjà, la voix. Je ne vais pas dire que je me souviens de l'endroit où j'étais quand j'ai entendu pour la première fois la voix de Pedro Guelfucci. En tout cas, je sais ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu pour la première fois la voix de Pedro Guelfucci et l'album de Kant, la première fois que nous l'avons entendu. J'étais avec mon frère et c'était quelque chose de... Voilà, la conscience que...
Il se passait
quelque chose. Et pas que au niveau au niveau des sensations, au niveau de, voilà, les paroles. Alors ça, c'est pas un premier album, un des premiers albums. Cette chanson me rappelle les soirées d'étudiants à Marseille, à Lumini, voilà, où là, où il y avait vraiment un fort engagement et pas tellement de mesures d'ailleurs. Et de sagesse, mais en tout cas, c'était, voilà, ça me rappelle ça. Mais Pedro Guelfucci, c'est... Alors, comme je dis, moi, le Riakouis, j'avais 15 ans déjà. Ouais. Donc j'avais une petite culture rock, grâce à... On pourra peut-être en parler, puisqu'on ne parle pas de politique. Ouais. Grâce à un disquaire Bastier qui faisait venir des imports. Et donc, Pedro Guelfucci, c'est... Et quant à Bouboulougour, c'est... Voilà, il y a le rock, mais il y a aussi ça. Et ça, on ne savait pas que ça existait. On avait 14, 15 ans. Et donc, c'était pas un traumatisme, en tout cas, une vraie révélation. Et ça a changé nos vies.
Ouais. Alors en 91, Pedro avait reçu une victoire de la musique pour les nouvelles polyphonies corses. Il avait véhiculé la culture corse, il avait véhiculé le chant corse un peu partout. Il avait été d'ailleurs idolâtré au Québec.
Québec, oui.
Ils pleurent en ce moment, ils sont en deuil au Québec, de leur côté aussi. La même année, il recevait le Grand Prix de la chanson de Radio France. En 93, il remporte un disque d'or au Québec pour l'album Corsica. En 95, il reçoit une seconde victoire de la musique avec Bocce di Corsica. Et je voudrais juste lire ce que dit de lui Francis Cabrel. Francis Cabrel dit: j'ai trouvé en Pedro un homme de la terre, authentique, vrai, sans artifice, un être profond ayant véritablement le sens des valeurs et refusant en bloc tout ce qui est superficiel. Il est comme moi, qui me considère comme un paysan au sens le plus noble du terme. D'ailleurs, nous avons décidé de vivre chez nous, là où nous sommes nés, loin des grandes villes impersonnelles, lui à Sherman et moi à Stafford, dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen. Voilà ce que pensait Cabrel. Je trouve que c'est un bel hommage à l'homme qu'il était vraiment.
Pedro, c'est vraiment la voix de la terre. Moi, je disais, j'ai dit Riakouis, mais ce n'était pas le seul. Mais hier, justement, je suis monté faire ma visite à Sherman, et en passant sur ces routes qui cheminent dans le Bouzou, je disais à la personne qui était avec moi, quand on voit le décor, quand on voit et qu'on pense à la voix de Pedro, c'est exactement, il y a une cohérence, entre les décors, la nature, la pierre. Un petit peu difficile aussi, parce que c'est pas hostile, le Bouzou, c'était une belle région, mais... Et la voix de Pedro, c'était, il y avait coïncidence incroyable. Ouais. Quoi. C'était vraiment savoir raconter parfaitement le territoire dans lequel il avait vécu et grandi.
Oui, il était important. Merci en tous les cas de rendre cet hommage à Pedro. Qu'est-ce qui vous commande? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous motive à commencer votre carrière politique, même si nous ne parlons pas politique?
Alors, le premier souvenir, la première manifestation au cours de laquelle je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire quelque chose. Et là, c'est la manifestation contre les Beaux Rouges. C'est en 73, je crois. Moi, j'ai donc 14 ans, même pas. Et je me souviens que la sous-préfecture de l'époque, qui est aujourd'hui le bâtiment qui abrite la mairie de Bastia, et le bureau du préfet de l'époque, qui est aujourd'hui le bureau du maire de Bastia, avait été saccagé, le sous-préfet pris en otage. Je crois que maintenant il y a prescription, et d'autant que je crois qu'il ne risque plus rien. Il y avait Edmond Siméon et Vincent Douriani qui avaient été même arrêtés parce qu'ils avaient... Voilà. Et ça, c'est mon mon premier souvenir, alors c'est politique, oui, puisque l'écologie, c'est politique. Mm-hmm. Mais le scandale des Bouts Rouges, c'était un événement, une affaire qui avait éveillé les consciences, à Bastia particulièrement, mais en Corse aussi. Mm-hmm. Et ça venait quelques années après à l'Argentée, là. Mais je crois que c'est le basculement définitif dans le sentiment général, même si certains ont mis du temps à objectiver ce sentiment-là. On le sait, mais en tout cas, c'est les Bouts Rouges, c'est la première manifestation dans la conscience des gens qu'il y a quelque chose qui doit changer. C'est écologiste, mais c'est aussi une lutte presque anticapitaliste, les Bouts Rouges. Hein. On se bat contre une multinationale, la Montedison, qui, sous prétexte de bénéfices, peut sacrifier la Méditerranée parce qu'il en va de ses intérêts, avec la complicité de l'État italien, de l'État français. Donc, Montedison, c'est... Les Bouts Rouges, c'est vraiment un événement marquant pour nous tous. Alors moi, à l'époque, je pensais surtout à la nature, en disant, voilà, on habitait au bord de mer, on nous expliquait qu'il n'y aurait plus de poissons et que, voilà.
Sur toute cette trajectoire, l'écologie vous a toujours tenu à cœur.
Complètement, complètement. Nous sommes des gens de la terre aussi, même si, on était des urbains, mais des urbains qui montions régulièrement au village, donc on avait ce double lien avec la ville. Et Bastia, à l'époque, c'était pas une ville incroyablement grande. On était tout le temps en contact avec la nature et au village, naturellement aussi.
Donc la politique débute vraiment en 73.
L'engagement militant, on va dire.
C'est ça, l'engagement militant.
Après, il y a à lire, et ensuite, on crée derrière avec des personnes illustres, hein, Jean-Guy Talamone, Éric Simone, l'Union des dirigeants des Gourses. Oui. Et ensuite, voilà, c'est parti. Et ensuite, derrière ça, 2-3 ans après, on part en fac. Et c'est les années où...
Tout est déterminant, là.
Tout est déterminant.
Quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites, là, c'est le carrefour. Si c'était à refaire, vous changez quelque chose à la trajectoire?
Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que je changerais? Mais je crois que je ne changerais rien. Rien dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas trompé. Hein, parce qu'on s'est trompé quelquefois, individuellement, collectivement, mais... C'était peut-être probablement des erreurs qu'il fallait faire pour en arriver où on en est aujourd'hui. Voilà, après, moi, non, je crois que tout ce que nous avons fait, je vous dis, c'est... Je pense pas qu'il fallait changer grand-chose. Après, c'est, collectivement, il y a eu les années de plomb, la fameuse... C'est dans les années 90, et ça, on aurait pu en faire l'économie, mais c'est facile de le dire après coup. Voilà, et je sais que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à ces années de plomb, qui étaient engagées, regrettent amèrement que ça ait eu lieu, mais toutes, il n'y a pas une qui dit que c'était bien. Mais je pense que c'était malheureusement un passage
c'était
obligé.
Le chemin.
Voilà, c'est le chemin.
On va écouter le deuxième titre que vous avez choisi. Alors avec le deuxième titre, on est dans les années fin 70, hein, c'est ça. Hein. Queen, Bowie... Under pressure,
oui, années 70-80.
Voilà, c'est ça, on en est là.
Sous la pression.
C'est un raccourci. Un thème que vous connaissez bien.
Oui.
La pression. Il y en a de plus en plus quand on est maire, non?
Alors, je ne sais pas si... Enfin, il faut... la pression, c'est... Les Anglais parlent de strain et de stress. Le stress, c'est ce qui nous fait vivre, et le strain, c'est ce qui peut nous faire mourir. Et la pression, c'est ça. Il faut être sous pression parce que il faut avancer et après il faut éviter qu'elle ne soit trop forte. Voilà.
Oui.
C'est pour ça qu'on est entouré de gens qui sont là de temps en temps pour en prendre un petit peu,
pour prendre
de pression.
Aussi,
mais voilà, mais cette chanson, c'est une chanson merveilleuse qui déjà avec de monstres sacrés de la musique pop et voilà Bowie et Queen et Freddie Mercury. Voilà. je trouve cette chanson incroyablement belle. Et voilà, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on peut faire une playlist de 5 chansons sans mettre Under Pressure? La preuve que non.
Impossible. Alors, sous la pression, quand vous en sortez de la pression, votre Corse à vous, où est-elle et avec qui?
Alors, ma Corse à moi, elle est de partout. Je n'allais pas dire avec n'importe qui, mais j'ai la chance, au gré des rencontres que j'ai pu faire en fac, que j'ai pu faire ensuite dans mes études, parce qu'après j'ai fait la fac, après j'ai fait une école d'ostéopathie, donc je suis parti en Belgique, mais de rencontrer du monde d'un petit peu partout dans le monde, mais d'un petit peu partout en Corse, et j'ai réussi à nouer des relations d'amitié très fortes, et il n'y a pas un seul territoire en Corse où je ne me sente pas chez moi, où je ne me sente pas bien. Donc je ne dis pas que je vais partout tout le temps, mais je suis chez moi à Venaco parce que c'est mot de rip. Alors je ne vais pas dire les gens qui disent mon cœur est ici, mes tripes sont là, moi mes tripes et mon cœur sont bien sûr à Bastia, bien sûr au village, mais il y a beaucoup d'endroits. L'autre jour j'étais justement sur Mourad, oui, à l'occasion d'un petit repas, et pareil, c'est une région magnifique, et voilà, je me sens partout chez moi. J'ai vraiment un vrai lien très fort avec la terre. Et donc, en Corse, je suis partout chez moi, je me sens bien partout.
Bon. Les amis, c'est important dans votre vie?
Les amis, c'est essentiel. Les amis, c'est essentiel. Et donc, on n'a pas de 200 amis, sinon c'est pas des amis. Mais après, c'est essentiel. Il faut constamment du contact avec eux et oui, prendre des nouvelles. Et puis moi, je crois...
La fidélité.
Fidélité, je crois, je joue beaucoup aux forces de la pensée. Alors, je ne suis pas François Mitterrand, oui, mais aux forces de l'esprit. Parce que c'est penser à quelqu'un, c'est même sans l'avoir directement au téléphone, oui, ça permet de garder le lien.
Oui. On dit que vous êtes un homme attaché aux valeurs, que vous placez au-dessus de tout. Quelles sont celles, justement, qui vous guident, qui vous font avancer, que vous défendez?
Alors ça, je crois que c'est l'éducation. Alors pas l'éducation en disant il faut, mais c'est la façon dont j'ai vécu, dont on a vécu à la maison. Le guide, je crois que c'est l'équité.
L'équité.
Voilà, l'équité, des fois même c'est un peu, c'est même lourd, parce que je dis mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais non, je dis c'est si on prend cette décision, elle sera pas équitable. Donc il faut que ce soit équitable. Et tant pis, si, des fois la décision équitable est juste. Elle rend les gens plus malheureux que une décision injuste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'équité, c'est ce qui guide mon action. Et des fois, c'est mal compris. Mais c'est comme ça.
Vous n'en démordez pas.
Non, parce que j'ai l'impression que d'en démordre une fois, ça voudrait dire que plus jamais je pourrais retrouver ce chemin-là. Donc c'est un chemin qui est un petit peu étroit aussi, hein, parce que...
Peut-être que les Bastiais l'ont compris, c'est pour ça que vous avez été réélu.
Je ne sais pas si... Je pense qu'ils l'ont compris, en tout cas, et je crois qu'ils ont compris qu'on essayait. Alors ça, il faut le répéter, parce que ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'on a réussi à changer la vie des gens? Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, l'important, c'est qu'ils aient conscience qu'on a envie de le faire, et qu'on continuera à avoir envie de le faire et à essayer de le faire.
Vous êtes proche des Bastiais, hein. On vous voit toujours assez chaleureux avec vous, vous êtes assez tactile. Et on se demande si de temps en temps vous mettez en colère. Qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui vous met en colère, Pierre?
Eh bien, l'injustice.
L'injustice.
L'injustice me met en colère. L'injustice me met en colère. Après, au quotidien, c'est vrai que maintenant, c'est quand même une autre période. C'est vrai qu'on a parlé pendant longtemps de la légitimité. Alors, je disais, ça ne m'intéresse pas, l'histoire de légitimité. À vrai dire, ça m'intéresse. Enfin, même si je disais que ça ne m'intéressait pas, ça me...
Oui.
J'y pensais quand même. Oui. Donc aujourd'hui, je pense être dans un modèle plus apaisé. Mais après, il faut que le travail soit fait. Fort heureusement, je suis entouré de gens qui... Une équipe d'équipe formidable, hein, au niveau de l'Amérique Bastia, on a la chance d'avoir des agents qui travaillent au quotidien et qui s'investissent vraiment pour la population. Mmh, ça, c'est rassurant. Après, voilà, ce qui peut m'énerver, c'est justement l'absence d'équité et les injustices.
Ouais. Alors, on vous sait besogneux. Est-ce que ça dure encore à la maison, ou quand vous arrivez, vous vous dites, bon, ben là, stop, la mairie, c'est pour demain?
Alors, la mairie, c'est tout le temps. Alors moi, je ne dis pas que quand je rentre à la maison le soir, j'ouvre tout le temps mon ordinateur et que je sors des fichiers et que je les lis. Mais grosso modo, c'est tout le temps. Et puis
dur pour la famille, ça.
Oui, c'est dur pour la famille. Après, c'est, c'est, C'est comme ça, mais je rentre tellement tard et je pars tellement tôt que bon, voilà, personne ne s'en rendra compte.
Alors, quand vous vous détendez, Pierre Savelli, qu'est-ce que vous aimez faire? Aller voir une expo, on va parler culture, aller voir une expo, assister à un match du SCB, aller voir un bon film, lire un bon bouquin?
Alors, j'aime lire, mais je ne lis pas. Là, pareil, l'histoire de la lecture, c'est que quand je rentre, je suis souvent très fatigué, et qu'une fois que j'ai fait tout ce que je devais faire, c'est très compliqué.
Vous endormez
sur les livres. Après, ce que j'adore faire, c'est aller boire un verre avec des amis et discuter et continuer.
C'est ça qui vous détend.
Continuer à refaire le monde et même des fois reparler encore des affaires municipales. Mais voilà, ça c'est ma passion. Après, j'aime aussi être.
Il faut rien, c'est
pas pareil. Je dis pas que c'est une activité. Ça fait partie de nous, quoi. Voilà, moi j'ai toujours la chance qu'on a quand on prend de l'âge, c'est que quand le Sporting gagne, on est heureux une semaine, et quand il perd, on est malheureux un quart d'heure. C'est ça qu'il faut arriver à faire.
Voilà. C'est sûr. Ici, on est à l'Albor.
Oui. Hein.
Ce théâtre à Bastia est né en 2015.
2015.
Le théâtre municipal va fermer en 2023.
2023, normalement. Voilà. Si tout va bien.
Comment ?
Si tout va bien.
Si tout va bien, oui. Alors, ce théâtre est peut-être tourné plus que le théâtre municipal vers une programmation un peu plus rock. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici à l'Albor avec l'objectif de la fermeture du théâtre municipal?
Alors, déjà, au niveau de la programmation, il faudra faire bien sûr des programmations de spectacles qui pourront coller aux spécificités de l'Albor, mais pas que, parce qu'on ne va pas priver les Bastiais qui veulent voir des pièces de théâtre de voir des pièces de théâtre, sauf que la jauge n'est pas la même. Le théâtre de Bastia, c'est 800 places. Ici, je crois qu'il y en a 340. Mais quoi qu'il en soit, peut-être qu'on trouvera autre chose. Et puis, il faudra se réinventer. Hein, parce que si ça commence en 2023, pendant 4-5 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, on n'aura plus de théâtre. En ayant en tête que le jour où on aura le théâtre, on aura un théâtre rénové, magnifique, avec un conservatoire. La jauge, la demande, c'est qu'elle soit plus importante. En tout cas, qu'il n'y ait pas baisse de jauge. On ne peut pas mettre autant d'argent dans un théâtre, dans une ville populaire comme Bastia, en imaginant qu'on va baisser la jauge. Si on investit beaucoup d'argent, c'est pour que la jauge soit à minima la même, avec que des places de qualité, avec une vraie belle vue sur la scène, et que si on peut augmenter la jauge, on le fera.
Qu'est-ce qui va changer sur ce théâtre? Il va conserver tout son côté ancien, illustre.
Aujourd'hui, le cahier des charges qui reste à rédiger, même si la semaine dernière, on a fait un jury qui a choisi 3 groupements qui vont maintenant plancher pour nous proposer chacun un projet. Le projet, c'est réhabilitation du théâtre, rénovation. On va retrouver les façades initiales, façades de l'architecte Andreas Karl, et surtout, on va le surélever pour que les locaux créés lors de la surélévation soient destinés au conservatoire, qui aujourd'hui habite le théâtre, mais dans des locaux qui ne sont pas du tout adaptés ni à l'enseignement des disciplines, ni à l'épanouissement des enfants.
Pierre, est-ce que vous avez été un jour tenté par l'écriture? Parce que tout le monde sort un livre, tout le monde écrit.
Je ne vois pas ce que je pourrais raconter. Non, je plaisante. Non, pas du tout. Et j'aime beaucoup parler. Je pense que l'écriture, pas du tout.
L'exercice vous suffit.
Oui, ça me suffit.
Ouais. Si vous vous adressiez au maire de Bastia, que lui demanderiez-vous pour la culture à Bastia?
Je lui demanderais de tout faire pour que la ville de Bastia soit retenue pour être capitale européenne de la culture en 2028. C'est d'ailleurs ce que le maire de Bastia fait, mais...
Espoir.
Oui, espoir. En tout cas, l'appareil, c'est l'important. C'est pas la destination, c'est le voyage. Alors bien sûr, si on était retenu, ce serait tous heureux, parce qu'il y a une grande adhésion de tous les acteurs culturels. Mais la joie les gens autour de l'équipe qui s'est constituée d'ores et déjà, qui ont envie de travailler ensemble pour constituer une équipe performante. Et c'est déjà un moment important. Et je crois que c'est important pour la Corse. Vous savez, dans la culture, il y a souvent quelques scissions normales, parce qu'il y a des égos, parce qu'ils sont des artistes. Et d'arriver à fédérer tous ces gens-là autour de cette volonté commune et cet objectif commun, c'est important.
On va écouter le troisième disque de votre choix. Le quatrième. Alors là, je me suis posé une question. Je ne connais pas ce groupe, The Band, avec The Weight. Mais si.
Evelyne.
Mais si.
Evelyne.
Écoutons.
The Band. D'ailleurs, l'album, c'est Music from the Big Pink, c'était la villa dans laquelle ils habitaient. C'était les musiciens de Bob Dylan, quand même. Des Canadiens qui ont fait un groupe, qui ont fait cet album, qui ont fait quelques albums de grand niveau. Et voilà. Quand Eric Clapton a écouté cet album, il a dit j'arrête. Il a dit jamais je pourrais faire ça. Voilà. Et le morceau qu'on écoute là, il fait partie de la bande musicale de Easy Rider. Et d'ailleurs, il y a une superbe vidéo sur YouTube, j'encourage les auditeurs à aller voir, où on voit Peter Fonda et son acolyte voyager en moto sur les routes américaines avec cette musique.
Magnifique. Allez, on est parti sur la route 66. Avant d'écouter l'avant-dernier titre, moi j'aimerais savoir si vous avez des projets, des rêves pour vous, pour l'homme, pas uniquement pour Bastia, qui n'est pas encore été réalisé et auquel vous tenez.
Ça, c'est comme faire une playlist avec 5 morceaux. Des rêves, j'en ai des centaines, des milliers. Mais un rêve qui est pas... Enfin, en tout cas, une volonté, un rêve et une volonté, c'est de faire plus pour les enfants, pour les jeunes, de faire que voilà qu'ils puissent, c'est pas, ils ont la chance de grandir à Bastia, mais il faut qu'ils aient plus de moyens, de possibilités de réussir leur vie, et parce que certains ont des vraies difficultés, parce que vous savez que on a beau dire ce qu'on veut, c'est que le milieu social dans lequel vous vivez oriente obligatoirement votre futur, quoi. C'est de faire que ça puisse pas, d'effacer tout ça, de faire que tous les enfants bastiais puissent avoir l'égalité des chances, ce qui s'est passé dans ma famille, vous voyez. C'est-à-dire que j'imagine être le père d'une grande famille, de tous les enfants bastiais, que chacun de ses enfants ait autant de chances que l'autre de réussir sa vie.
Ce soir, Pierre, je voudrais qu'on parle de cette sale période que nous venons de traverser, le Covid. Comment l'avez-vous vécu et qu'est-ce que ça vous a inspiré comme réflexion?
Alors, c'est une période éminemment difficile. On n'en est pas encore tout à fait sorti, même si on semble aller vers le mieux. En revanche, quand on dit que plus rien ne sera tout à fait comme avant, certains disent non, mais le monde d'avant, et peut-être qu'on ne va pas le changer, mais en tout cas, plus rien ne sera comme avant, parce que même si l'être humain a tendance à vite oublier, mais je crois qu'on aura plusieurs pandémies qui vont se succéder, alors pas toutes de ce niveau-là, puis maintenant, on sait un petit peu comment faire, on ne sera pas surpris, comme on a pu l'être au mois de mars 2020. Mais ce que je retiens surtout, c'est que cette crise sanitaire, elle a pu créer autant de fractures dans des milieux qu'on imaginait monolithiques, avec tout le monde pense la même chose, et on a vu que ça a créé vraiment de vraies fractures, avec de vraies tensions. Mmh. Et ça nous ramène à que faire justement pour... Parce qu'il ne s'agit pas d'obliger ou de contraindre, mais comment faire pour qu'il y ait plus de discussions, plus d'échanges entre les gens, et que la situation qui est déjà difficile comme ça ne le soit pas plus difficile.
Vous avez créé un fonds de solidarité pour les commerçants, hein, une plaque,
On a commencé d'abord, c'était tout à fait artisanal, hein. On a créé, on a fait la marketplace ensuite, ça c'était en novembre 2020, mais en avril 2020, on avait fait un drive où on permettait aux commerçants, aux producteurs de venir sur la place Saint-Nicolas. C'est eux qui choisissaient leur créneau et de vendre leur production. Les Bastiais passaient en voiture, ils achetaient. Il y avait toutes les normes de sécurité qui étaient respectées. C'était des moments, importants, émouvants même, parce que. Et on disait, voilà, rien n'est jamais. Il n'y a pas de fatalité. Il suffit qu'on le veuille pour pouvoir avancer, s'en sortir. Parce que la crise Covid, elle a créé des vraies difficultés. Mais là aussi, elle nous a permis de nous renouveler, de nous réinventer.
De nous remettre en question.
De nous réinventer. Donc, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut que ça se produise tous les ans, mais voilà, retenir ça aussi. Retenir, par exemple, les hôpitaux, quand on a fallu passer en plan blanc, les gens ont travaillé et on a réussi à se réinventer et à être plus efficace lors de la seconde et la troisième vague, parce que justement, acquisition d'expérience, un vrai savoir-faire, donc c'est, cette crise, elle a eu beaucoup d'effets négatifs, avec beaucoup de décès, hein. Mais en tout cas, elle a montré qu'il y avait une réelle solidarité. Alors certains vont toujours voir, mais la bouteille à moitié vide. Mais moi, je la vois plutôt aux trois quarts pleine.
C'est une île solidaire.
Une île solidaire, mais alors, après, moi, l'île solidaire, bien sûr, mais partout, ça a été ça. Après, il y a eu des tâtonnements dans tous les pays qui ont eu des... mais grosso modo, à l'échelle de la planète, il y a eu quand même un travail incroyable qui a été fait. Il y a eu quelques erreurs de chefs d'État, parce qu'on ne parlera pas de Trump ni de Bolsonaro. Mais sinon, grosso modo, tout le monde a bien réagi.
Vous avez craint pour la surfréquentation de l'hôpital de Bastia ?
Oui, bien sûr, on a craint. Alors, la première vague... On avait très peur, donc on ne connaissait pas du tout le virus, on ne savait pas ce qu'il fallait faire en termes de protection. Et tous les jours, on scrutait les indicateurs, il n'y a pas de test. Alors c'était juste, il y a eu tant d'entrées, tant de cas, pas tant de cas. Donc c'était compliqué de savoir vers où se trouvait la sortie et quand elle arriverait. Après, ça a été différent avec les masques, avec les gestes barrières, puis les tests. On s'est rendu compte qu'on avait des indicateurs, le taux d'incidence, qui nous permettait d'avoir une vision de l'épidémie, de savoir qu'on pouvait la contraindre un peu, la restreindre un peu. À Bastia, on a demandé le port du masque obligatoire dans les rues piétonnes en août 2020, c'est-à-dire bien avant tout le monde. Mm-hmm. Voilà.
Bien donc, avant tout le monde, le Green Pass aussi. Hein.
Le Green Pass et la vaccination à partir des 18 ans. Mais ça, c'est, on ne peut pas dire qu'on a été
des précurseurs.
Oui. Mais en tout cas, je crois que cette réflexion, c'est une réflexion partagée et que voilà, ces décisions elles ont été prises dans cette optique-là, pour faire qu'on sorte le plus rapidement possible en imaginant que la vaccination obligatoire, pour nous, c'était pas une fin en soi. Nous à Bastia, on a dit on va ouvrir un centre de vaccination pour que ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire.
Ouais. On va écouter Alors là, l'avant-dernier titre, et là je vais redire une chose qui va vous faire bondir, mais je ne connais pas Sigur Rós.
C'est normal.
Non, je plaisante. Islandais, groupe islandais oui, qui mélange. J'ai écouté la musique classique et
musique
le rock.
Classique, rock, hein? Il joue de la guitare avec un archer. C'est... Alors, nous on a le Riaquist, qui est un moment incroyable, un moment qui a duré 40 ans. Alors moi je compare toujours, je comprends qu'on puisse ne pas aimer Sigur Rós, hein. Moi j'adore, mais je disais c'est ça nous montre, nous on doit aller maintenant vers la diversification, même si on a il y a peu de territoires et de peuples qui ont autant d'artistes avec aussi peu d'habitants.
Oui, voilà. Oui.
Mais Sigur Rós c'est peut-être pas une voie à suivre, en tout cas il nous montre qu'on peut sortir des sentiers battus.
On part en Islande.
Thank you.
découverte. Je ne connaissais pas du tout Sigur Rós. Quelle voix !
Quelle voix ! Alors ça, c'est le leader du groupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas été jusqu'à écouter les paroles. Mais moi, quand j'ai écouté cette chanson, naturellement, je ne parle pas du tout l'islandais. Mais j'ai dit, je vais quand même essayer de trouver la traduction de ces paroles en français parce que ça m'a l'air d'être une chanson d'amour.
Oui, oui, ça semble assez romantique.
Sauf que, ce ne sont pas des paroles.
D'accord. Là,
il fait de la musique avec sa voix.
Avec sa voix.
Ça s'appelle, je crois que c'est le Zbolanska ou le Bolanska. Ouais. Mais c'est pas une langue, c'est
d'accord, parce qu'avec le titre « Vaca », j'ai cru que c'était une vache.
Mais je crois pas, non. Voilà. Non, Sigur Rós, ça...
C'est magnifique,
écouter,
en tous les cas,
voilà, ouais. Écouter.
Alors, avant d'écouter votre tout dernier choix, Pierre Savelli, je vous sais très présent sur les réseaux sociaux. Quel est votre réseau attitré? Vous communiquez beaucoup sur les réseaux?
Alors, je pense que c'est pas une révélation. C'est pas moi qui... Enfin, moi, je ne communique pas. Bien sûr, c'est moi qui communique, mais j'ai...
Oui, vous avez une équipe
chargée de communication. Qui communique et
Vous tweetez beaucoup?
Je tweete pas mal. Après, ouais. Quand je tweete, c'est sur Facebook et c'est souvent sur Instagram,
ouais,
aussi.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, ce sont des médias qu'on est obligé d'utiliser.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est obligé, incontournable alors, aujourd'hui.
Incontournable pour faire savoir.
Oui.
C'est aussi incontournable pour savoir aussi. Alors, certains disent que c'est dangereux. Alors, j'ai vu que c'est vrai que Facebook peut...
Vous évitez les commentaires, quels qu'ils soient?
Oui, pour moi, là, c'est, l'important, c'est de faire savoir, de dire. Et après, le commentaire, c'est souvent aussi des défouloirs. Ce sont des défouloirs. Et ça, on n'y peut rien. Et c'est important qu'il y ait des défouloirs aussi.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est pas toujours suffisant pour éviter la violence en dehors des réseaux sociaux. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué de... Il faut peut-être qu'il y ait un contrôle plus strict du contenu. Mais c'est quand même un moyen de savoir, de s'informer. Et bien sûr, il y a la radio, mais oui. Aujourd'hui, je crois que c'est...
Oui,
vous avez
le réflexe d'aller chercher l'info sur Twitter?
Oui. De toute façon, c'est obligatoire. Il y a les alertes, et c'est obligatoire.
Vous communiquez entre vous, les élus, par le biais des réseaux sociaux?
On communique par le biais de WhatsApp, par le biais de Telegram. Aujourd'hui, il y a une quantité incroyable de groupes. Ouais. Alors le groupe à Bastia, c'est majorité municipale, adjoint Bastia, adjoint NSEM, et après le groupe cabinet, il y a le groupe secrétaire du cabinet. Bon, ça c'est parce que c'est bien que pas tout le monde enfin il y a des choses qu'on devrait dire à certains et pas à d'autres. Donc c'est comme ça. Mais ça c'est une vraie révolution.
Quoi. Oui.
Aussi.
Toujours les téléphones sur vous, alors?
Les deux téléphones. Ah, ça, c'est mes compagnons les plus fidèles. Enfin, non, j'exagère, mais en tout cas, toujours. J'ai des compagnons beaucoup plus fidèles que les téléphones. Mais oui, toujours les téléphones sur soi.
Ouais.
Tout le temps.
Pierre Savelli, je voudrais vraiment vous remercier d'être venu. Mais auparavant, je voudrais savoir ce que vous avez comme espoir pour la Corse demain.
Mes espoirs, toujours les mêmes. C'est les espoirs que j'avais en 1975. C'est les mêmes aujourd'hui. C'est avec la satisfaction de voir que les choses changent, mais que le travail reste à faire. Qu'on a dit un paese d'ava, un paese ferma d'ava, tamantastra, on l'a dit qu'au début, et de dire oui, mais je crois qu'il y a une prise de conscience et d'avoir la conviction, d'avoir la certitude et de le dire que on travaille pour la jeunesse, on travaille pour leur offrir la possibilité de s'émanciper, on travaille pour leur offrir la possibilité de faire ce qu'ils voudront faire pour réussir leur vie, sans les obliger à rester, parce que moi, la Corse, ça doit être un endroit où bien sûr, les jeunes Corses doivent pouvoir continuer à travailler s'ils le veulent, et faire les choix qu'ils veulent, mais aussi, je crois que c'est important de dire aujourd'hui où des théoriciens du grand remplacement viennent nous suriner leur baliverne et leur sornette, de dire que voilà, la Corse, si on connaît son histoire, on ne peut pas parler de grand remplacement.
Pierre, est-ce que la vie aurait été possible pour vous sans politique?
Ça, je ne me suis jamais posé la question. En tout cas, dans chaque discussion que je peux avoir, et ça depuis toujours, il y a toujours une dimension politique.
J'avais un ami qui disait, tu vas acheter du pain, c'est un acte politique.
Absolument, c'est ce que je disais. Tout est politique, et moins on a conscience d'en faire, et plus on en fait.
Pierre Savelli, vous avez brillamment assuré cette émission. Vous n'avez pas parlé politique, vous avez respecté la règle. En revanche, je me dis que j'ai préparé mes questions gages. Je vais peut-être oser vous les poser, c'est possible ?
Allez.
Oh, adorable. Alors, baissez-vous le volume de la radio quand vous cherchez une place pour vous garer ?
Non, j'ai pas besoin.
Parce qu'il n'y a pas la radio dans la voiture ?
Non, mais bon, le son n'est jamais trop fort.
Vous avez tous les pouvoirs durant une heure. Que changez-vous ?
Alors, aucune idée. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une décision prise comme ça qui puisse changer grand-chose. J'essaierai de bannir la xénophobie.
Quel est votre premier geste de la journée ?
Le petit déjeuner.
Le petit déjeuner ?
Oui.
Immédiatement au réveil ?
Sans lequel on ne peut rien faire.
Si vous pouviez dîner avec une personne présente ou disparue de votre choix à travers le monde, qui choisiriez-vous ?
Je ne peux pas le dire.
Ah, on sort un joker ?
Oui.
Oui.
Joker, ouais.
Joker. Vous êtes sucré ou salé ?
Les deux.
Les deux. Champagne ou Oritz ?
Oritz.
Oritz. Merci, Pierre Savelli.
Mais 20 plus qu'Oritz.
Maire de Bastia, Pierre Savelli, merci d'avoir été là. Est-ce que vous êtes un homme heureux ?
Je crois, même si ça ne se voit pas toujours. Merci. Non, oui, bien sûr. Merci à vous.
À bientôt.
Merci.
Ayez-je une seconde à tenter jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of it.
Il n'y a pas d'homme providentiel.